voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire. Nicolas Braic est un amoureux des grands espaces et travailleur acharné en quête constante d'innovation pour préserver l'écosystème et améliorer le bien-être animal. Il élève des cochons et s'applique par différentes pratiques à améliorer la condition de la vie du sol. Rencontre avec Nicolas, un homme fascinant et plein de ressources.
Alors on est sur le Larzac méridional, c'est-à-dire la fin du Massif central, juste avant le littoral. Donc on a devant nous des collines qui culminent à 800-900 mètres, qui sont très embroussaillées, avec beaucoup d'arbres, buis, vallonnés. Et nous on est sur la dernière plaine avant le Massif de la Serranne, qui est en fait une plaine qui a dû être créée il y a à peu près 3-4 000 ans, et que je suis content de voir avec de plus en plus d'arbres, parce que les plaines n'ont pas trop de sens. Il faut éviter d'avoir des endroits nus, pour en avoir un petit peu, mais c'est intéressant de regarder les arbres qui reprennent le dessus.
D'ailleurs, tu nous emmènes, je crois, dans la forêt, là.
Alors non, on est semi-boisé. Là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, en fait... On a une présence humaine qui est très importante dans ces régions, à peu près 4 à 5 000 ans avant notre ère, avec des menhirs, dolmens, beaucoup de mégalithes et une utilisation, raisonnée, c'est-à-dire qu'ils étaient sur des systèmes avec les premiers élevages extensifs, ou peut-être cheptel sauvage qui suivait. Et en fait, on a de partout des zones construites avec des constructions très anciennes. Et c'est étonnant de croire que... Enfin, il y a beaucoup de personnes sur Larzac qui imaginent que c'est très peu peuplé et que c'est vide de vie humaine, alors que ça a été un des endroits les plus exploités. Donc c'est cet antagonisme qui est très rigolo. Et on se retrouve avec... un petit peu cette présence qui est là depuis ces X générations. Et moi, j'essaye de comprendre ce qu'ils faisaient et ce qui a fait qu'ils ont pu perdurer pendant des milliers d'années. Parce qu'on parle minimum de 3000 ans, donc c'est pas rien. Nous, actuellement, dans les fermes, on raisonne difficilement à 10-15 ans. Je dirais même plutôt d'une année à l'autre, hein, avec malheureusement cette PAC. Et on est des suiveurs un petit peu et on se concentre pas sur ce qui se faisait avant et ce qui a fait que les gens vivaient bien ici.
Et donc tu vois encore des vestiges de civilisation ou d'agriculteurs qui faisaient du pastoralisme il y a plusieurs milliers d'années.
Ouais, on a des parcs, des clos en pierre. Très très ancien. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que plus c'est vieux, plus les pierres sont grosses. Donc là, il y a quand même une interrogation. Alors que plus c'est récent, plus les pierres sont petites.
Et comment t'arrives à dater ?
Alors on a la chance d'avoir pas mal de passionnés archéologues qui ont beaucoup tourné dans la région et qui nous expliquent tout ça. Et donc c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout cette notion ou cette connaissance. Et là, je me retrouve... devant le fait accompli, c'est qu'effectivement les plus vieux monuments sont les pierres les plus imposantes. Alors là, en face de nous, on a des portées de petits cochons, donc on les voit dans les hautes herbes. Alors il y a un système très étonnant, c'est qu'en fait moi j'ai mélangé tous les âges et tous les sexes pour en fait obtenir des familles. Parce que le cochon, c'est vraiment un animal familial. Et en fait, là, il y a des mamans qui font les nounous. Pendant que d'autres mamans vont chercher dans les bois ou dans la plaine à manger, elles se retrouvent à garder les petits. Et les petits naviguent, ils rayonnent en cercle concentrique. Donc, c'est des animaux qui sont semi-sauvages. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment que moi qui les approche. Donc on est quand même sur des animaux qui n'ont pas trop l'habitude de la présence de l'homme et qui sont très intéressants parce que c'est aussi une des premières fois en France où on peut réobserver des cochons sauvages. Donc on est quand même maintenant à 11 ans. On peut estimer que les animaux sont beaucoup plus proches de leur de leur état naturel. Et ils vont avoir des systèmes de protection. On a le principal problème dans les cochons, c'est les attaques de renards. Et donc j'ai fait un système de cabane circulaire, concentrique, avec un lieu dortoir où il y a les plus grands et les adultes, et puis un lieu avec les tout petits. J'ai appelé ça Fort Apache et Fort Alamo. En clin d'œil, malheureusement, à ces Amérindiens qui ont souffert de ces colonisations, et surtout d'essayer de dire que nous ne sommes pas chez nous. C'est-à-dire qu'on installe des élevages, on se doit de respecter les renards, on se doit de respecter l'ensemble de la faune. Moi, je suis parti du concept au départ d'avoir 0% de perte. Je suis rentré dans un schéma complètement aberrant de lutte. Et finalement, maintenant, j'accepte de perdre un tiers de tous les cochons qui naissent. Et c'est pour ça que j'en perds plus. C'est l'acceptation de la perte qui a fait que j'ai réussi.
Il y a un sage indien qui disait qu'on est libre de ce qu'on accepte.
Tout à fait, ouais. Le problème, c'est les idées préconçues, la conceptualisation de ce que peut être une agriculture. Qu'est-ce qu'on fait chaque matin ? Moi, en fait, je me sens responsable du bien-être de mes animaux, avant tout. Je pense pas à viande, je pense pas à euros. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas le plus grand ami de mes banquiers, mais je pense que ça changera, parce que dans des périodes de transition, ce type de fermes ne sont pas comprises. En fait, la rentabilité n'est jamais l'action principale. C'est d'abord l'environnement, après la santé humaine, et puis la transmission générationnelle. C'est trois piliers qui sont très importants. Mais par exemple, si je bafoue mon environnement, que je fais une viande de piètre qualité, et qu'en plus je pénalise les enfants qui sont derrière moi, j'ai loupé tout mon contrat. Et je peux avoir des milliers d'euros sur mon compte, ou des millions, je suis à côté de la plaque. Si je respecte mon environnement, que je donne une viande de qualité où les gens se régalent, et qu'en plus, deux ou trois générations après moi, on peut continuer à faire ce que je fais, j'ai réussi. Et si je suis en négatif sur mes comptes, ça n'a pas aucune importance. Donc c'est vraiment cette approche. Et je pense que cette transition agroécologique, et j'ai la chance d'avoir pu échanger avec Pierre Rabhi aussi là-dessus, ce qui est important, c'est ce positionnement de bien-être. On ouvre les fenêtres le matin et on se dit « Waouh, je suis milliardaire. Je vis là. » Il faut se rendre compte de ce que ça peut être, et je sais que tu t'en es aperçu. Mais vivre ici, c'est une chance de tous les jours. Alors, faut pas croire que c'est facile, parce qu'il y a des hivers, hein, il y a du vent à 110 km/h et il peut faire du moins 15. C'est vraiment pas une zone idyllique. On est dans le sud de la France, mais on a des influences de plusieurs climats. Par contre, on va dire, c'est aussi une chance, parce que je pense que cette brutalité fait aussi la beauté de ce pays.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Regarde ce que tu as dans l'assiette, ça te nourrit, ça te remplit. Et du coup, c'est le prix du travail bien fait, de la valeur juste. Et au passage, je t'explique quand même que moi, quand je prends une décision, normalement, deux ou trois générations après moi, il peut continuer. Donc toi aussi, tu payes cette dette sur le temps. Et actuellement, ça fait que tu as un peu moins d'argent dans ton porte-monnaie, mais toi, tu vas permettre à ce type de système de continuer. Et c'est vrai qu'on a appris que l'Europe allait encore baisser les primes agricoles, et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Il faut arrêter d'être des moutons et de suivre ces préconisations, même si c'est des personnes, et il ne faut pas les juger, ils sont dans une volonté de bien faire. J'ai rencontré le directeur de la Commission européenne sur les affaires agricoles, et il veut vraiment bien faire, c'est ça qui est fou. Il ne sait pas en fait comment, mais il veut bien faire. Maintenant, il ne peut pas comprendre l'ensemble des biotopes, il ne peut pas comprendre la complexité de cette nature. Et en fait, uniformiser quelque chose à l'échelle d'un territoire comme l'Europe, c'est inenvisageable. Donc même s'ils font des mesures spécifiques locales, ça sera pas cohérent. Ce qu'il faut, c'est retrouver quelque chose de... Moi, j'aime bien parler de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'agriculture raisonnée, d'agriculture... on va dire raisonnable. Moi, ça me fait un peu de la peine, parce que je me dis c'est encore une façade pour essayer de masquer quelque chose. Moi, en dehors du cahier des charges bio que je respecte, mais qui pour moi est bien trop léger à mon niveau, je pense qu'il faut aller sur ce qu'on appelle l'agro-silvopastoralisme, dans mon cas, qui est le système qui a montré la plus grande réussite générationnelle. Et ce système-là, il est basé en fait sur deux piliers. Le premier, c'est la compréhension systémique, c'est-à-dire on est inscrit dans une boucle. Alors moi par exemple j'élève des cochons, des moutons, où est-ce qu'elle est ma boucle? Qu'est-ce qu'un cochon fait, la première chose qu'il fait quand il se lève le matin? Eh bien c'est pas vrai, il cherche pas des granulés. Il va chercher avant tout une ration herbe et puis des insectes. Et puis un petit peu de tubercule, mais c'est pas des fous de racines les cochons. Par exemple tout le monde me dit, mais t'es fou, t'as pas mis des anneaux, ils vont te labourer tes champs et tout. J'ai parmi une des plaines les plus fertiles du Larzac. Parce qu'en fait, j'aurais fait confiance. Et la confiance, c'est la base de tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un animal détériore son biotope comme ça. À mon avis, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc, je suis rentré dans une gestion complètement différente, avec plus d'un hectare par cochon. Et là, j'ai vu les bienfaits. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était à moi de bouger. Donc, le fort apache et le fort alamo bougent tout le temps. Et eux, ils suivent. Et en fait, on est des itinérants, on est des nomades du Larzac avec mes cochons. Et on regarde ensemble. En fait, j'ai cette chance de pouvoir les observer. Et je regarde à certaines saisons où est-ce qu'ils veulent être. Je m'aperçois que des fois, ils sont à 1 km de là où il y a les cabanes. Parce que dans cette saison-là, et moi, au fil du temps, j'ai appris. Et là, par exemple, on est dans une zone qu'ils aiment beaucoup au printemps. Et puis après, on ira dans des zones qu'ils aiment plus en été, on rentre dans les bois, en hiver aussi. Et puis dans des zones automne, ils aiment beaucoup être en lisière. En fait, il y a tout un cheminement, un cercle que j'ai appris.
Par l'observation.
Par l'observation, ouais. En fait, c'est ce qui a été fou, c'est qu'on m'a dit, tu vas mélanger tous les âges, les pères vont manger les petits. Moi, je suis désolé, le cochon dit que c'est un des mammifères les plus intelligents. J'y ai jamais cru, jamais. Et pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je peux caresser mes verras. Alors oui, effectivement, c'est des animaux qui sont impressionnants, qui peuvent être dangereux. Mais en fait, quand il n'y a pas de danger, c'est comme c'est comme des relations humaines, quoi. C'est pourquoi j'irais te faire du mal si je suis bien. Et donc, ils ont été complètement, protégés par ses pairs. Moi, j'ai même vu des verras dormir à l'entrée, donc des protections en cabane circulaire, pour pas que les prédateurs rentrent.
Même quand Véras.
Un véra, c'est un mâle adulte. Et moi, j'ai déjà vu mes véras faire des combats à mort. C'est très, très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Et il faut laisser faire, hein, ça fait partie du cercle. Ouais. Et donc, dans cette hiérarchie-là, j'ai réussi à voir cet équilibre et de voir que mes truies étaient plus en plus calmes par la présence de ces mâles qui, eux, avaient leur propre hiérarchie. Elles ont leur propre hiérarchie entre elles. Et en fait, on se retrouve avec un équilibre sain. Et puis, on laisse faire un petit peu les choses. Et si on a moins de production, c'est normal. C'est des zones où les mères ne sentent pas de faire des petits, des périodes. Et puis, si on en a plus à des zones, c'est que normal, il y a plus d'herbe et ça fonctionne. Donc, retrouver un peu ces valeurs-là. Et surtout, cet équilibre... on va dire au niveau des piliers que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la boucle, en fait ce qui est vraiment important, c'est qu'on va rentrer dans l'environnemental. Donc il y a les trois piliers humains, hein, qui sont environnemental, qualitatif et puis générationnel, qui moi pour moi sont vraiment importants. Parce que c'est pas parce qu'on fait du bio qu'on peut faire aussi de la qualité. Ça, c'est vraiment un problème. C'est souvent des dérives, hein, d'un système industriel qui se base sur une rentabilité à court terme. Je pense qu'on peut faire différemment avec une approche plus durable. Et dans la partie environnementale, ce qui est important, c'est de regarder son environnement et d'observer en fait son biotope. Actuellement, les céréales ont fait qu'on a perdu le fil et l'observation. Nos ancêtres fourrageurs étaient bien plus incorporés dans leur biotope, bien plus attentifs à un chant d'un oiseau, à une sauterelle qui saute. On était bien plus connectés quelque part et on a perdu ça en fait. Et ça, il faut bien comprendre qu'on est éleveur, on est plus proche d'un chasseur-cueilleur qui va suivre un troupeau que d'un agriculteur. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je parle d'agro-silvopastoralisme. Moi, je suis mes cochons. Je ne suis pas « Ah, il faut faire comme ça, c'est moi qui décide. » Ok, vous voulez faire comme ça ? Ah, c'est là que vous voulez vous baigner ? D'accord, c'est là que je...
Mais ça, c'est une sensibilité que toi, tu as. C'est l'ordre de ta personnalité. Un éleveur, chaque éleveur aura sa vision de l'élevage.
Oui, mais le gros hic, et là je reviens là-dessus, c'est que l'éleveur, en fait, va pas forcément avoir sa vision. Il va avoir une vision pour être rentable. Et c'est là où on pêche. C'est-à-dire qu'en fait, ce système de rentabilité fait commettre énormément d'erreurs et va nous générer en fait moi, je suis pas du tout contre les mouvements contre la viande. Je trouve ça tout à fait judicieux parce qu'on allait trop loin, on a fait n'importe quoi, et il en faut. Et il faut que des gens crient haut et fort que c'est impossible de manger de la viande de mauvaise qualité et qui nous empoisonne. De l'autre côté, je pense que quelqu'un qui a envie de manger de la viande et de la bonne, il doit pouvoir en trouver. Et dans cette approche, ce qui moi me pose problème, c'est que enfin, moi j'ai pas honte de mon prix, je fais partie des cochons les plus chers de la planète, et j'en ai rien à faire. Et celui qui veut pas, il passe son chemin. Mais j'ai la chance d'avoir des gens qui font la queue parce que en fait ce que je fais c'est autre chose. Pourquoi pas se dire ben voilà, je vais manger une fois du cochon par an, mais je vais prendre ce qui existe de mieux pour moi, pour ma planète, pour les générations futures. Je sais que nos ancêtres et 2-3 générations, hein, c'était vraiment festif quand on faisait un cochon à la broche. C'était quelque chose où on se réunissait, on se tenait par la main, et un petit peu comme on voit dans Astérix Obélix, c'est la fête, quoi. Et là, maintenant, c'est devenu un grand classique, quoi. Je pense qu'il y a cette approche-là aussi qui est malsaine. Moi, je partirais plutôt sur un produire juste, ouais. Quelque chose qui fait que c'est cohérent. Moi, ça me parle. Moi, je suis vegan, là, je viens voir cet élevage, je regarde les cochons autour de moi, je dis, celui-là, je le mangerai. C'est vrai, hein. Et j'en ai eu plein de végétariens qui sont venus, qui ont mangé le cochon chez moi. Des végétariens de 40 ans qui ont mangé du cochon chez moi. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait là, juste à parler avec ce soleil et ces petits oiseaux qui chantent, et voir ces cochons comme ça, on se dit, waouh, ça a du sens. C'est comme ça que je verrai des animaux. Donc, en fait, souvent, on se retrouve à restreindre l'ensemble du panel de son alimentation parce qu'on ne trouve pas ce qui nous correspond. Et ça, je suis d'accord, c'est plutôt une approche chasseur-cueilleur. J'arrive dans un univers, il n'y a rien qui me parle, je ne le mange pas. Et ça, c'est sain. Par contre, je dois manger du cochon, donc j'achète la première barquette en solde. Là, je suis désolé, c'est toutes les dérives, justement, de ces histoires de prix juste et compagnie, c'est toutes ces dérives-là qui ont fait la merde actuelle. Donc, voilà, je partirais plutôt sur, ok, je veux manger de la viande, tant pis, ça va me prendre 2 jours dans mon année. Mais je vais manger de la viande, je vais me déplacer, je vais regarder comment ça se passe, je vais me renseigner, je vais naviguer, je vais regarder un peu, et puis je vais pouvoir avoir quelque chose dans mon congélateur qui a du sens. Donc ce cheminement-là, il est important, et dans toute la boucle et dans toute la sphère que j'ai pu observer, donc cette broussaille avait vraiment un sens. On parle beaucoup de panneaux solaires, de transition agroécologique, et on oublie en fait que cette planète, elle s'appelle la planète Terre, que si elle est si unique, c'est qu'on a 7 cm de couche arable qui en fait un biotope unique, et ces 7 cm ont été générés par de la biomasse, arbres et broussailles. À chaque endroit de la planète où vous avez du sol, il y a eu une forêt. D'accord ? Le Sahara, il y a 5000 ans, c'était une forêt. Il faut comprendre qu'on est très vite capable d'éroder, mais on peut très vite aggrader. La gradation, c'est la création de sol. C'est un terme qui me plaît bien, j'en ai parlé avec Philippe Desbrosses, avec Pierre, avec Claude et Lydia Bourguignon. La gradation, c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus dégrader. Et si on se concentre à aggrader, si toutes les actions vont aller vers cette création de sol vivant, tout va s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le pilier, le pivot fondateur de cette nouvelle vision que l'humanité peut avoir. Et toutes les civilisations qui ont oublié leur sol ont périclité. Toltec, Maya, Aztèque, Sumérien, la ville d'Uruk, Babylone, Bagdad, toutes les civilisations qui ont commencé à ce qu'on fait, surhydrater, parce que en fait, les pesticides, l'ensemble des systèmes chimiques, c'est une virgule flottante dans notre agriculture. C'est quelque chose, moi je m'y attarde même pas, ça ne m'intéresse pas tellement ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'actuellement, on a détruit un biotope, on a éradiqué des insectes, on a détruit des sols, mais en fait, la nature est bien plus forte. C'est l'humanité qu'on doit sauver, absolument pas la planète. La planète, elle s'en fiche des insectes qu'on a fait disparaître ou les espèces qu'on a abattues, d'autres reviendront. On le sait, il y a eu 6 extinctions de masse, celle du précambrien a été monstrueuse. À un moment, il faut comprendre que la planète, elle a son chemin. L'humanité, elle doit faire attention à elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut que cette humanité perdure, on doit se concentrer sur ces sols vivants. C'est notre bouée de sauvetage, c'est notre vision. Et ce qui est fantastique dans ce système, c'est que plus on le fait, plus ça fonctionne et plus ça produit de l'énergie. Je ne sais pas, mais quand on entend mais qu'est-ce que ça va être demain, comment on va faire et tout, et que j'explique tout simplement que Jean Pain, il y a 44 ans, a expliqué qu'un tiers de la broussaille française redonnait non seulement en chaleur l'ensemble des foyers français, autonomes, mais en plus des capacités de création d'électricité ou d'air comprimé ou de tout autre système permettant de produire une grande partie d'énergie, de ne plus utiliser d'énergie fossile. Et ça, ça n'existe pas. Moi, j'ai essayé d'alerter gouvernement et État successifs. Hein. Je pense qu'il y a, ce changement qui fera que l'évolution des différents gouvernements successifs vont se poser de plus en plus de questions et que les sols vont devenir glamour. Parce qu'actuellement, un sol vivant, c'est absolument pas vendeur, absolument pas glamour. Et il faut changer ça. Il faut expliquer en fait à tous ces enfants que si on se parle, nous actuellement, c'est qu'il y a des sols vivants quelque part. Et indépendamment de la viande et de tout ce qu'on peut y faire pousser, plus le sol est vivant, plus le reste va mieux. Donc pourquoi s'ennuyer à essayer de comprendre pourquoi telle tomate pousse dans tel et tel pH et compagnie? Non, concentrons-nous juste sur les systèmes d'aggradation naturelle de cette planète, que sont la broussaille et les branches basses des arbres, et tout va aller mieux. C'est quand même simple. Et ce qui est magique au passage, c'est que c'est le meilleur panneau photovoltaïque du monde. On a des panneaux photovoltaïques, là, ils se gargarisent d'être passés de 13% à 17% de rendement sur des panneaux photovoltaïques qui, en fait, vont, on le sait, hein, utiliser non seulement des terres rares, mais en plus tout du silicium et tous des matériaux qui sont difficilement recyclables et en plus qui sont problématiques actuellement. Alors que la broussaille, c'est 97% de rendement et ça repousse tout seul et on fait rien. On passe toujours à côté et on se dit, tiens, c'est normal que ça repousse. Qui n'a pas coupé une ronce et a littéralement halluciné de voir la capacité de repousse? On se dit, mais c'est pas possible, je l'ai coupée il y a 2 semaines ou 3 semaines, elle est déjà comme ça. Parce qu'en fait, la broussaille, c'est le système de génération des sols qui est le plus performant. Ici, c'était uniquement de la roche. On a un végétal qui est unique, qui est le Buxus serpinviens, qui pousse sur la roche et qui crée du sol. Ça, ça existe dans tous les systèmes. Donc, il se trouve que nous, dans le sud de la France, on a plusieurs essences, mais le buis est vraiment intéressant. Qu'il est capable d'avoir donc des associations de lichens, roches, déstructuration et atmosphère pour créer du sol. Donc dans la mythologie grecque, le buis a été envoyé par Vénus pour créer de la vie, pas du sol, de la vie sur Terre. Vous vous rendez compte? Et quand vous prenez ça, vous regardez la mythologie, vous dites, non, la mythologie, on est d'accord, mais des fois, il y a derrière un inconscient collectif qui fait que ça a du sens. Donc ça veut dire que les anciens sont aperçus que sous un buis, il y avait un sol, et que dans ce sol, on pouvait planter une graine. Et qu'il y avait quelque chose qui pousserait. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Le buis, c'est pareil, c'est une virgule. Il se trouve qu'ici, moi, c'est du buis, mais on peut le faire avec toutes les broussailles. Ne surtout pas se focaliser sur une essence. Ce qui est important, c'est de prendre ce qu'il y a en biotope. Donc, on ne déstructure pas un biotope, parce que la broussaille, plus on la récolte, plus elle génère de la ressource, plus elle dépollue. C'est un système magique. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur 280 millions d'évolutions. En forêt vierge, j'ai eu la chance d'échanger avec Francis Allais aussi, ils sont des berceaux de vie phénoménaux. Ils sont capables de porter des tonnes de vie, des tonnes et des tonnes de vie, en dehors de la propre essence. Et ils ont une explosion au sol aussi de vie. Donc en fait, ils sont capables de générer énormément de boucles vertueuses. Et ces feuillus, ils ont toute une chaîne de création. Et quand vous regardez la création d'une forêt et d'un sol vivant, ça démarre toujours par la broussaille, puis ça finit par les grands chênes, et ici en Europe. Et donc dans tout ce cheminement-là, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est en fait favoriser ce système de repousse, au passage s'en servir comme une récolte, une ressource, et puis la laisser gagner du terrain. C'est pour ça que je vous parle que dans cette plaine, moi je serais heureux qu'à la fin de ma vie, je vois de plus en plus d'arbres, de plus en plus de broussailles. Je me dis, j'ai gagné. J'ai gagné, alors que tout le monde me dirait, mais t'es bête, t'avais un champ, tu pouvais faire du foin. Mais du foin, mais tu rigoles. Le foin, c'est une vision archaïque d'une récolte, d'une matière, qui en fait n'est pas intéressante dans un instant, parce qu'on mobilise une surface qui s'érode au cours du temps. Il n'y a pas un champ en France qui ne perde pas d'humus. Il n'y a pas un champ en France où ils ont compris les systèmes d'aggradation. Il n'y a personne, et j'en parle avec Claude et Lydia, très peu qui ont commencé à mettre du bois sur leur sol. Alors que le bois, c'est la base de l'alimentation des sols, c'est la base des sols. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer de croire qu'on a la science infuse. Regardons ce qui marche en forêt. C'est quand même fou. Il y a des civilisations en Indonésie, et c'est Francis Allais qui m'en parlait, qui sont là depuis 35 000 ans, qui travaillent en agro Silvo, donc c'est plutôt de la chasse forestière, donc c'est pas du pastoralisme, mais ça fonctionne très bien. Et ils ont favorisé telle et telle essence pour avoir telle et telle ressource, et ils ont compris que plus les branchages tombent, plus c'était vertueux et plus ça fonctionnait. Et nous, on est là, on croit avec nos gros tracteurs et notre système qu'on va sauver, qu'avec la technologie, on va sauver les choses. Non. Moi, la technologie, elle est au service de la broussaille. Mais elle n'est pas au service du travail des sols. Il faut arrêter, ne plus mettre un outil dans les sols. Rien. Mais même pas rouler dessus. Il faut arriver à trouver des systèmes qui soient vertueux, basés sur la forêt, et qui... des systèmes de feignants. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas clair dans la tête des hommes. On croit que plus on va souffrir et plus on va être heureux. Je sais pas d'où ça sort, mais quand on regarde un petit oiseau le matin, il a jamais de doute qu'il va pas trouver son insecte. Ou on a perdu en fait cette liberté là qui fait que, je veux dire, moi, mon troupeau de moutons, je m'en occupe, mais je lui fais confiance. Mes cochons, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire de décider à telle heure tu manges, je vais te donner tel foin cet hiver? Non, l'hiver, il faut gratter la neige pour trouver de l'herbe. Et ce qui est génial, c'est que j'ai un cheptel super endurant. Et oui, les vieilles meurent l'hiver. J'ai pas peur de le dire. Les brebis âgées et fragiles meurent l'hiver. Et elles rentrent dans un cercle. J'ai fait une placette de vautours. Et elles rentrent dans un cercle d'alimentation. Elles permettent à des bébés vautours de vivre à des périodes où il n'y avait rien d'autre à manger. Et ça, ça paraît grave, ça. Alors que tout le schéma de la viande industrielle, avec ces milliers de carcasses qui sont là toutes les semaines, ça c'est camouflé, ça on le voit pas. Et ça part en croquettes pour nourrir des animaux qui sont malheureux à manger ça. Donc il y a une vaste fumisterie qui fait que on n'a jamais de pertes et tout. Ils en ont peut-être 7 ou 8 fois plus que moi. Mais moi, le fait qu'on me dise « Ah, t'as pas de bergerie, c'est quand même dur l'hiver et tout », non, non. Les brebis, elles ont de la laine, elles sont capables de marcher dans la neige sans avoir des problèmes d'irrigation. Et puis, elles se déparasitent. Parce que quand il n'y a plus d'herbe, tout le système parasitaire va se retrouver dans la neige et va geler. Donc oui, c'est parfait. Par contre, je ne dis pas, il ne faut pas dépasser 4 semaines où elles n'ont rien trouvé. Mais ça fait partie d'un cycle.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc en gros, tu stimules la pousse de tes arbres, tu permets d'avoir une captation de tout le système et de toute la boucle, et tu vas permettre de passer cette transition et énergétique, et alimentaire, et santé, et bien-être, et tous ces urbains qui n'ont plus de sens. Parce que moi, j'en croise plein qui me disent « Pourquoi je vis en ville? Pourquoi je suis dans mon embouteillage ?» T'es entouré de tes choix. T'es entouré de tes choix. Tu as la capacité de changer ça. Et ben, si tu veux rester en ville, crée du sol en ville. Démerde-toi. Fais un emprunt au lieu d'acheter... ton dernier voyage au Nicaragua, putain, mais 5000 balles dans la création d'un sol. C'est rien dans ta vie, c'est que dalle. Faut arrêter avec ça. On va tous accumuler de l'expérience, alors qu'en fait, ce qui a le plus de sens pour les générations futures, et quand tu vois des enfants dans les parcs urbains, c'est extrêmement triste. Ils n'ont pas accès à de la biodiversité. Ils auront mis 3 fleurs qui crèvent, qui sont rempotées, et ainsi de suite. Non, crée du sol, ça, c'est de la vie. Dans un sol, tu as jusqu'à 1600 unités vie... par centimètre cube, tu peux aller, en comptant les bactéries et les champignons, tu peux aller sur des millions et des millions, des milliards à la tonne. Gratte, regarde ce qui se passe. C'est pas sale, c'est beau, et c'est ce qui fait que t'es vivant. Le gros problème, c'est qu'actuellement, les gens, ils ne veulent pas de sol vivant. C'est pas une demande. Ce n'est même pas inscrit dans la liste des fondamentaux d'un humain. Si on prend tout en haut, ça doit être l'écran plasma ou le stade de foot. Mais à un moment, il y a tous les sodas, il y a la bière. On descend. Peut-être que tout au fond, sur quelques illuminés et tout, il y a un mec qui veut un râteau ou une binette ou un motoculteur. Mais à aucun moment, il y a un gars qui veut créer du sol. Et ça, c'est quand même problématique, quoi. Moi, j'hallucine. Remettons une échelle de valeur cohérente. Mettons en haut, ok, premier pilier, sol vivant, ok, bah donc du coup, toute la génération va se concentrer à essayer de capter cette ressource, à la valoriser, à faire de l'open source dessus, à exploser les records de récolte. Pourquoi pas faire des jeux, moi j'y ai pensé, je suis un gamer dans l'âme, c'est-à-dire que j'aime la compète et tout, bah créer un jeu où le mec, c'est le meilleur, on appelle ça des farmers, hein. C'est le meilleur farmer de broussailles au monde, il est capable de générer... tant de captation carbone à la seconde, Je trouve ça génial. Ok, c'est le plus gros dépollueur du monde. Et bien, on le met en avant. Et lui, c'est un héros. Donc, à un moment, je veux dire, c'est con comme la Lune. Arrêtons de vouloir mentaliser une projection de vie humaine qui n'a rien à voir avec ce qui nous a fait naître. Remettons de la forêt dans nos vies. Et ça va bien se passer pour tout le monde. Donc voilà, on a cette responsabilité-là. Et quand on dit qu'on emprunte la Terre à nos enfants ou nos petits-enfants, c'est vrai. Hein. C'est plus que vrai.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.